Vous êtes sur RTL.
L'heure de retrouver RTL Soir avec Marion Calais et Julien Cellier. Bonsoir à vous.
Bonsoir Céline.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Deux heures d'infos pour vous, à votre service, avec toute la rédaction et donc Marion Calais à mes côtés. Et à la une, un document RTL, un jeune héros de 13 ans. Il s'est interposé à Toulouse alors que la CPE de son collège était tabassée par plusieurs élèves. Les autres titres de l'actu, Marion.
Ce conseil municipal tendu à Saint-Étienne sur fond de chantage à la sextape dont est accusé le maire. Le succès de l'extrême droite italienne qui fait rêver ses homologues français et puis les déboires de l'équipe de France de foot chez les moins de 18 ans. Pétage de plomb hier, une finale, 4 cartons rouges.
Oula.
En 20 minutes, le match s'est vite interrompu.
À 18h15, le changement c'est maintenant chez Orpea. 9 mois après les révélations de cas de maltraitance dans les EHPAD, eh bien le nouveau patron Laurent Guillot sera notre invité à 18h15. Il annonce un recrutement massif. Dans un quart d'heure, la brigade RTL avec ses méthodes dignes de Pablo Escobar. En Belgique, la mafia a voulu enlever le ministre de la Justice. Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, opération Armageddon, la NASA va tenter ce soir une opération kamikaze pour défier la trajectoire d'un astéroïde. 18h40, on va défaire le monde. Les 20 minutes d'infos autrement avec Cyprien Signy et toute la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu.
Ce soir, on va vous faire découvrir une histoire fascinante. Des soupçons de tricherie dans le monde feutré et policé. Des échecs, algorithmes, magouilles et puces cachées dans le corps. C'est Dallas sur l'échiquier. Au menu également, les pharmaciens responsables des enseignes lumineuses et la traversée des États-Unis en trottinette électrique.
À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Herbemont. Et puis le temps deux fois par demi-heure avec Louis Baudin, annonciateur de mauvaises nouvelles ce soir. Bonsoir Louis.
Bonsoir.
La tendance pour demain.
Eh ben, ça continue avec des éclaircies, des averses, du vent et de la neige en montagne.
Ouf, même de la neige, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Il est le seul parmi ses camarades à avoir réagi, à s'être interposé pour éviter le lynchage de la conseillère d'éducation de son collège. Il s'appelle Mohamed, il a 13 ans et il témoigne ce soir sur RTL.
À votre micro, Patrick Stégéro, bonsoir.
Bonsoir.
Ce jeune Toulousain vous a raconté, très fier, son intervention la semaine dernière.
Oui, très fier, mais en même temps très modeste. Vous savez, Mohamed n'est pas très grand, mais son sourire est immense. Et à la sortie du collège, la principale est venue me voir. Elle me dit « Alors comme ça, vous vous intéressez à notre héros ?» Alors Karim a rougi, et comme il le dit si bien, lui, ben, il a juste suivi son cœur.
Une fille, elle s'est débattée fortement, beaucoup, et la CPE, elle a trébuché. Et ensuite, je sais pas qu'est-ce qu'il leur a pris, tout le collège, ils sont mis vers la CPE. Et ils l'ont donné des coups de pied sur la tête, dans son corps, partout. Et moi, quand j'ai vu ça, ben, j'ai directement réagi. Et j'ai vite pris conscience que c'était vraiment quelque chose de grave. J'ai vite pris la CPE et je l'ai fait rentrer dans le collège, l'Atrium. Pour moi, c'est rien de stupéfiant pour moi. J'ai écouté mon cœur et j'ai aidé la CPE.
Comme un bouclier, Mohamed a protégé la fonctionnaire. Il a même pris des coups à sa place. Son père, Jamel, est très fier.
De toute façon, il est toujours comme ça. Avec tout le monde, il est gentil, il a un bon cœur. Et c'est sportif, et voilà quoi. J'espère qu'il n'y aura pas de représailles après tout ça et tout ça. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais j'en suis fier. Ah oui, je suis fier. Et c'est bien pour ça que je dis à ses frères, ses deux frères aussi, qui a l'exemple. Quoi. J'ai dit, voilà, il faut continuer comme ça.
Pas de représailles, bien au contraire. Ses copains l'appellent désormais la star. Son oncle Karim est venu le chercher en voiture pour le féliciter.
Bien sûr que oui, je suis très fier. Son tonton, je suis très fier. On va le ramener en Ligue des Champions, lui. C'est excellent. Pour un petit jeune, excellent ce qu'il a fait.
Oui, alors la Ligue des Champions, c'est peut-être pas pour demain, hein, même s'il est footballeur. L'objectif de Karim, plus modestement, est de devenir informaticien.
Document RTL qui donne le sourire, en tout cas. Merci à vous, Patrick Tégéro. C'est habituellement un espace d'échange et de vote, mais le conseil municipal de Saint-Étienne s'est mué aujourd'hui en dialogue de sources et en tendu sur fond de chantage à la sextape sur un de ses adjoints, dont est accusé le maire Gaël Perdriau.
Alors, cette séance, vous l'avez suivie pour RTL, Bertrand Frachon. Gaël Perdriau, inflexible face à des oppositions très remontées.
Debout, solennel, face à une salle comble, Gaël Perdriau prend la parole en début de séance pour dénoncer une nouvelle fois l'acharnement à son encontre.
En aucun cas, le conseil municipal ne peut se transformer en tribunal. Je vois bien depuis le début de cette affaire, de cet acharnement médiatique, que la chasse à l'homme est ouverte, que certains n'ont pas la patience d'attendre que la justice fasse son travail, que la tentation est trop forte de tenter d'achever un homme pris dans une tempête.
Mais l'opposition monte rapidement au créneau par la voix notamment du socialiste Pierrick Courbon.
Gaël Perdriau, si vous aimez Saint-Étienne, vous devez renoncer de vous-même à l'ensemble de vos responsabilités exécutives municipales et métropolitaines, le temps de l'instruction, puisque vous avez perdu l'autorité morale pour présider à nos débats. Nous vous demandons d'ajourner les délibérations à l'ordre du jour de ce conseil municipal.
Devant le refus du maire d'ajourner la séance, les élus PS quittent la salle du conseil. À l'extérieur, une manifestation est organisée sous les fenêtres de l'hôtel de ville.
Bertrand Frachon à Saint-Étienne pour RTL.
Lui est accusé de violence psychologique sur son ex-compagne et après sa démission ce matin de la direction d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou contre-attaque.
Par la voix de son avocate, maître Marie Dauzet, qui dénonce le règne de la suspicion, l'opacité de la cellule du parti chargée de la lutte contre les violences et le harcèlement sexuel.
Julien Bayou est présumé coupable d'accusations rendues publiques dont il ne sait rien et dont il ne peut pas se défendre. Julien Bayou n'a jamais exercé la moindre violence psychologique à l'égard de ses compagnes. Jamais. Puisque la cellule de signalement d'Europe Écologie Les Verts est incapable de travailler en respectant le moindre principe fondamental censé pourtant s'imposer à tous, elle rendra une décision forcément politique et donc forcément biaisée.
L'avocate du député écolo accusé de violence psychologique, Julien Bayou, au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire.
À droite et à l'extrême droite, depuis ce matin, à chacun sa façon de tirer la couverture à soi après le succès de la coalition emmenée par la post-fasciste Giorgia Meloni aux législatives italiennes. Bonsoir Marie Mollet.
Bonsoir.
Des Républicains à Reconquête, festival de réactions pour tenter de faire coller cette victoire à leur stratégie.
Exactement, à l'extrême droite. Chacun veut sa part de Meloni, Éric Zemmour d'abord, qui rappelle que Giorgia Meloni était dans les choux il y a 4 ans, avec un score de 4%. Comprenez, voyez, nous aussi, on peut ressusciter. Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête, choisit d'y voir une validation de la stratégie d'union des droites. C'était ce matin sur RTL.
Surtout, c'est la récompense d'une stratégie, la méthode d'une femme qui a défendu l'idée d'une coalition à droite, de ce rassemblement des droites, pour gagner. Et je crois qu'en France, on devrait avancer aussi vers cette hypothèse.
Mais on applaudit aussi dès demain, côté Rassemblement National, champagne chez Marine Le Pen, qui salue un gouvernement souverainiste et patriote. Elle fait même de Giorgia Meloni un argument de vente, littéralement, écoutez.
Au moment où toute l'Europe se réveille, après la Pologne, la Hongrie, la Suède et l'Italie cette nuit. Eh bien, je vous invite à devenir adhérent du Rassemblement National. Devenez acteur.
Marine Le Pen, qui fait mine d'oublier que son programme n'a pas grand-chose à voir avec celui de Giorgia Meloni et que l'allié historique du RN, Matteo Salvini, s'est pris une gifle électorale hier avec moins de 9% des voix. Enfin, à droite, malaise, car Meloni s'est alliée avec la droite traditionnelle en Italie. LR s'est fendue d'un communiqué, un monument d'équilibrisme. Le parti ne se réjouit pas, mais ne condamne pas non plus les résultats en Italie.
Un décryptage signé Marie Mollet pour RTL. Cet après-midi, Emmanuel Macron lui a dit respecter le choix démocratique des Italiens. Bruxelles appelle de son côté et dit espérer une coopération constructive avec le prochain gouvernement. En Russie, après l'annonce de la mobilisation la semaine dernière par Vladimir Poutine, le Kremlin admet des erreurs alors que des réservistes et notamment des personnes âgées, malades ou étudiants semblent avoir été appelés. Un homme par ailleurs a ouvert le feu ce matin dans un centre de recrutement de l'armée russe, blessant grièvement un officier qui y travaillait.
Et votre journal continue dans RTL Soir avec le gouvernement qui veut s'attaquer aux arrêts maladie de complaisance. A tout de suite sur RTL.
Julien Cellier,
RTL Soir jusqu'à 19h15.
RTL Soir,
Julien Cellier, Marion Calais.
18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir. C'est un gouvernement à l'euro près, selon les mots du ministre de l'économie qui a présenté son projet de budget 2023.
Budget de l'État avec un peu plus de 10 000 postes de fonctionnaires supplémentaires notamment annoncés. Budget de la Sécu avec augmentation du prix du tabac pour suivre l'inflation. Encore gratuité de la contraception d'urgence mais aussi des économies.
Avec dans le viseur par exemple les arrêts de travail prescrits en téléconsultation par un praticien qui n'est pas votre médecin traitant. Près de 100 millions d'euros l'an dernier d'après le gouvernement, qui veut donc les dérembourser.
Au-delà des situations d'urgence, soupçons de complaisance concernant ces arrêts de travail. Et vous en avez fait l'expérience, Agathe Landais, bonsoir.
Bonsoir.
En moins de 4 minutes, on peut obtenir un rendez-vous et un arrêt de travail.
Oui, et pour cela, je me suis connectée sur un site de téléconsultation. J'ai trouvé un rendez-vous dans le quart d'heure avec un médecin généraliste installé à Toulouse. Je lui signifie que je pense avoir un rhume. Et vous allez l'entendre, je n'ai pas mis longtemps à obtenir un arrêt de travail. La voix du médecin a été modifiée.
Bonjour monsieur.
Je vous écoute, qu'est-ce qui vous arrive?
J'ai pris une téléconsultation parce que je me sens vraiment pas bien.
Ouais.
J'ai éternué, je me suis mouchée toute la nuit.
Qu'est-ce que vous avez fait de la température?
J'ai pas de thermomètre, donc je sais pas.
Vous toussez, j'imagine?
Un petit peu, là ça va mieux.
Vous avez mal à la gorge?
Un petit peu.
Il faut un arrêt de travail pour demain?
Bah ouais, parce que je pense que je vais même partir maintenant du travail là.
26, vous voulez quoi, juste demain ou mercredi?
Plutôt mercredi.
Ouais. C'est peut-être une banane rhinopharyngite, mais bon. Voilà, mais ça c'est bon, l'arrêt de travail il est fait, l'ordonnance aussi. On s'est envoyé sur votre boîte mail.
Bah super, merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Cette consultation en visio aura duré en tout 3 minutes 30, à l'issue desquelles j'ai reçu donc une ordonnance avec des médicaments et un arrêt de travail pour 3 jours.
Et Agathe Landais qui, malgré tout, est là pour le journal de 18h. Merci. Dans la série « Rien ne va plus dans le foot français » après la nouvelle désillusion sur le terrain pour les hommes de Didier Deschamps, après l'affaire Pogba ou encore après les accusations de harcèlement à la Fédé, voici désormais les coups de sang de nos jeunes internationaux.
Bonsoir Eric Silvestro.
Bonsoir.
Alors c'était hier à Limoges où l'équipe des moins de 18 ans, donc l'équipe de France, hein, a littéralement pété les plombs.
Oui, les U18 français affrontaient la Pologne en finale d'un tournoi international au stade Beaublanc. À la mi-temps, le score était de 2-2, les spectateurs ravis, mais tout a dérapé en 20 minutes au retour des vestiaires. Ousni, le buteur du PSG, est expulsé pour contestation, suivi du Rennais Bélossian 6 minutes plus tard. À 9 contre 11, les Français concèdent alors un troisième but et perdent encore un peu plus leur nerf. Le Havre Gomis et surtout le Stéphanois Darnell Bail, auteur d'un coup de boule sur un joueur polonais, sont exclus. Les Bleus ne sont plus que 7. L'arbitre est obligé de mettre un terme à la rencontre à la 75e minute. Un épilogue et une attitude intolérable pour leur sélectionneur Bernard Diomède, champion du monde 98 au micro de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Certains, il n'y aura peut-être pas de retour en équipe de France parce qu'il faut qu'ils comprennent les choses. Et puis d'autres qui ont une bonne attitude à la fin du match, qui ont essayé de calmer le jeu. C'est bien d'analyser ceux qui ont eu le bon comportement et ceux qui ont eu les mauvais comportements. Et moi, en tant qu'entraîneur, je sanctionnerai les joueurs que je dois sanctionner. Ouais, des sanctions qui, souhaitons-le, seront exemplaires mais qui pourraient mettre fin au rêve professionnel de certains.
Mais Eric Silvestro, merci.
4 cartons rouges en 20 minutes.
Ouais, et un coup de boule pour finir.
Ça, c'est français. Ah. Merci beaucoup Eric Silvestro. On l'avait déjà vu, ça aussi. Merci Marc. À tout à l'heure. Le temps, Louis. Vous avez le sourire, Louis, là, mais on va moins rigoler demain.
La pluie en même temps, elle est nécessaire. C'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Ces pluies qui arrivent là, qui vont. En plus, ce sont des pluies continues, donc ça va ramollir les sols. Et donc, ces pluies vont pouvoir rentrer dans les sols et commencer à remplir les nappes phréatiques. Bon, ça vous suffit.
Vous voyez
pas
toujours
pour supporter.
Le positif.
Bon, d'accord. En tout cas, demain, c'est régime d'averses dans toutes les régions. Des averses plus soutenues dans l'est, un peu moins dans l'ouest. Ça donnera de la neige en montagne, 2700 mètres sur les Alpes du Nord. Ça sera accompagné de vents forts, 70 km/h près de la Manche, 70 à 100 km/h sur les bords de la Méditerranée où les éclaircies devraient quand même être un petit peu plus belles. Et puis les températures, absolument pas de saison, 7 à 10 degrés le matin dans la plupart des régions, 16 à 19 degrés l'après-midi au nord comme au sud. Il n'y a que près de la Méditerranée où cette fois-ci on dépassera encore les 20 degrés.
Merci Louis.
La brigade RTL soir.
Et la brigade RTL ce soir se penche sur ces méthodes dignes de Pablo Escobar. En Belgique, la mafia a voulu enlever le ministre de la Justice. Oui, le ministre de la Justice. On va poser 3 questions à Guillaume Chiez. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Enlèvement qui a peut-être d'ailleurs été évité in extremis, c'est
ça ? Oui, aujourd'hui les enquêteurs belges en ont la certitude. Les 3 hommes garés jeudi dernier devant la maison du ministre de la Justice à Courtrai voulaient bien l'enlever lui et peut-être même sa famille. Ce soir-là, Vincent Van Quicken Born rentrait d'un voyage à New York. Les policiers ont aperçu un véhicule suspect avec des plaques néerlandaises, mais lorsqu'ils ont voulu le contrôler, tout le monde avait disparu. Dans la foulée, ils se sont intéressés à une autre voiture garée à quelques mètres de là. À l'intérieur, ils ont trouvé une arme lourde, du ruban adhésif et des bouteilles d'essence, de quoi confirmer la piste de l'enlèvement.
Alors, 4 suspects finalement ont été arrêtés. De qui s'agit-il ?
Ce sont des narcotrafiquants néerlandais, des hommes apparemment liés à la Mokro Mafia, une organisation tentaculaire à cheval entre Dubaï, les Pays-Bas et maintenant la Belgique. On estime aujourd'hui que la Mokro Mafia est la principale organisatrice du trafic de cocaïne dans le port d'Anvers.
Pourquoi vouloir enlever ce ministre belge ?
C'est la question qui taraude les enquêteurs et la réponse la plus probable, c'est qu'il s'agit d'un coup de pression exercé au plus haut niveau de l'État pour desserrer l'étau autour des trafiquants néerlandais. Mais cette tentative a eu l'effet inverse. Depuis la résidence ultra sécurisée où il a été placé en urgence, Vincent Van Quickenborn a publié un long message. Les criminels se sentent piégés et ils ont raison, dit-il. Nous continuerons à lutter contre eux avec plus de personnes et plus de ressources qu'avant.
Les explications de la brigade RTL, merci beaucoup Guillaume. RTL Soir va revenir dans quelques secondes. Orpea a changé, c'est le message du nouveau patron. Laurent Guillot sera notre invité dans un instant. Il annonce un recrutement massif dans ses EHPAD. A tout de suite sur RTL.
Julien Cellier.
RTL Soir jusqu'à 19h. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Bonne fin de journée, quasiment 18h20, RTL Soir toujours à vos côtés. Notre invité maintenant, c'est le nouveau patron d'Orpea, le nouveau directeur général, Laurent Guillot. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors votre mission, elle n'est pas simple. Hein. Redresser la barre après des mois de crise pour le groupe d'EHPAD, le livre enquête Les Fossoyeurs a bouleversé l'opinion publique il y a 9 mois. Rationnement des couches, situation de maltraitance, manque d'effectifs. On découvrait une face cachée d'Orpea. Aujourd'hui, dans vos 222 établissements en France, il y a eu la restitution de vos états généraux parce que vous avez initié un dialogue avec personnel et famille. Visiblement, vous a demandé des effectifs parce que vous annoncez le recrutement de 550 personnes d'ici fin décembre. C'est très conséquent.
En effet, 550 personnes par mois d'ici fin décembre, c'est absolument indispensable. Vous savez qu'on a une rotation de notre personnel qui est très très grande dans ce secteur, qui n'épargne pas Orpea, et on a besoin de recruter énormément de personnes.
Ça veut dire que vous étiez en sous-effectif jusqu'ici? C'est vrai qu'on se souvient de témoignages après ce livre enquête d'infirmiers qui expliquaient par exemple qu'ils s'occupaient d'une trentaine de personnes à eux seuls. C'est le constat que vous avez dressé quand vous êtes arrivé aux manettes d'Orpea?
De façon très différenciée selon les établissements, mais il y a des endroits en effet où il y avait et où il y a encore du manque de personnel. C'est le cas chez nous, comme c'est le cas pour l'ensemble du secteur. C'est très difficile de recruter à la fois des aides-soignantes, mais surtout des médecins, des infirmières. C'est très difficile pour nous, c'est très difficile pour l'hôpital public, vous le savez. Nous faisons tous nos efforts pour le faire, et nous recrutons également des auxiliaires de vie.
Pourquoi donc vous dites 550, que c'est nécessaire aujourd'hui?
Parce que un des critères principaux du bien-être et de la bienveillance auprès de nos résidents, c'est aussi le nombre de personnes qui les accueillent, qui les accompagnent, qui les soignent.
Donc 550 recrutements par mois d'ici la fin de l'année, et encore plus en 2023?
Et encore plus en 2023, 800 par mois. Attention, il y a des gens qui partent tous les jours de nos établissements, c'est normal, c'est malheureux. Nous allons aussi travailler sur le fait de les garder, les conserver, c'est-à-dire leur offrir des conditions de travail et des conditions de vie bien meilleures dans nos établissements. C'est un travail que nous allons faire en dialogue avec les représentants du personnel.
Vous voulez mettre davantage d'effectifs, on l'a compris, dans vos établissements. Avant de prendre les rênes d'Orpea, est-ce que vous avez lu, Laurent Guillot, ce livre enquête, Les Fossoyeurs? Est-ce qu'il vous a choqué comme il a choqué l'opinion publique?
Bien sûr que je l'ai lu et bien sûr qu'il m'a choqué.
Et je crois qu'après cette lecture, d'ailleurs, vous avez dans un premier temps refusé le job?
J'ai refusé le job avant de lire le livre.
Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Le livre?
Le livre en partie, mais aussi la lecture du rapport IGAS-IGF et la lecture du livre du rapport GTM qui avait été commandé par l'entreprise. Parce que ce qu'il ressortait très clairement du livre et de ces rapports, c'est le formidable engagement des personnels d'Orpea. En fait, les 71 000 personnes qui travaillent pour Orpea, les 26 000 personnes qui travaillent en France dans nos établissements et qui accompagnent nos résidents, ce qu'il ressortait de ma lecture de l'ensemble des enquêtes, c'est vraiment un formidable engagement et un état d'esprit extrêmement positif, tourné vers l'autre. Et ça, c'est extraordinaire d'avoir à essayer de redresser une telle équipe.
Alors, redresser la barre, c'est une mission qui, on l'a dit, compliquée. Vous dites, depuis que je suis là, c'est tolérance zéro. Est-ce que vous pouvez nous assurer que ce qu'on a pu lire dans ce livre, le rationnement des couches, de la nourriture, tout ça, c'est bien terminé?
Le rationnement des couches et de la nourriture, je n'ai pas croisé un directeur d'établissement dans mes près de 70 visites que j'ai fait sur le terrain qui l'a vécu. Quand j'ai dit tolérance zéro, c'est que dans le livre aussi est dénoncé des comportements et de la malversation financière
des
de façon extrêmement significative. Pour l'ensemble de ces faits, les malversations financières, c'est tolérance zéro. Mmh. Je ne vous dis pas que, malheureusement, dans un établissement ou dans un autre, il n'y aura, tout se passera formidablement bien. Mmh. Ce que je dis, c'est que tolérance zéro. Mais est-ce que vous dites que
ce rationnement, je reviens sur la nourriture, parce que c'est vrai que dans le livre, on se souvient d'exemples de résidents qui payent 8000 euros par mois et à qui on rationne les biscottes au petit déjeuner. C'est un exemple qui était assez marquant à l'époque. Pour vous, ça n'a pas existé ?
Je ne dis pas que ça n'a pas existé. Je dis que peut-être ça a existé dans un établissement parce que la gestion de cet établissement n'était pas bien faite. Je dis que ça n'était pas un système. Et d'ailleurs, le rapport IGAS-IGF, donc l'État, a confirmé que ce n'était pas un système.
Des familles ont porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger. Est-ce que vous avez envie de leur dire quelque chose, de s'adresser à ces familles ce soir sur RTL ?
Bien sûr, avoir un père, un parent, une mère, un père dans un établissement, c'est un moment difficile de la vie, c'est un moment difficile pour elle. Je ne connais pas ces plaintes. Je n'en ai pas connaissance puisqu'elles sont devant la justice et j'en aurai à être saisi au moment venu. Et le moment venu, nous aurons des discussions avec ces familles, bien évidemment.
Est-ce que les révélations sur Orpea ont entraîné une crise de confiance ? Pour être plus clair, est-ce que des familles aujourd'hui se détournent de vous quand elles doivent placer leurs anciens en maison de retraite ? Est-ce que vous avez un taux de remplissage qui a subi les effets de la polémique ?
On a un taux d'occupation qui a en effet subi les effets de la polémique et qui progressivement se redresse et qui montre que les familles nous font à nouveau confiance. C'est progressif, c'est lent et on a énormément de travail à faire pour récupérer leur confiance et c'est normal.
Ces révélations, elles ont aussi entraîné un débat, enfin elles ont relancé un débat. Est-ce que le privé doit s'occuper de nos aînés, de nos anciens ? Vous vous dites que vous en êtes convaincu ?
J'en suis convaincu. Privé ou public, il faut faire d'abord et avant tout correctement son travail. Donc nous, ce qu'on va faire, et moi, ma mission, c'est de faire correctement le travail. Une fois que ce travail sera fait bien, on montrera qu'on peut être privé et bien faire son travail, j'en ai aucun doute.
Est-ce que vous avez peur pour l'avenir d'Orpea ? Parce que c'est vrai que le cours de l'action a été divisé par 6 en moins d'un an. Est-ce que ça vous inquiète ?
Écoutez, c'est le sujet, c'est de faire le travail dans les établissements auprès de nos résidents. Une fois qu'on fera correctement le travail, on sera capable de le montrer, notre réputation s'améliorera et j'ai pas de doute que la situation d'Orpea de façon générale s'améliorera.
Ça veut dire que vous ne préparez pas des mesures radicales, la fermeture d'établissements par exemple, ce n'est pas du tout quelque chose qui est envisagé ?
Dans les établissements, il y a des résidents, il faut qu'on continue à s'occuper d'eux.
Est-ce qu'il faut, dernière question, changer le nom d'Orpea ? Parce que c'est un nom qui a été abîmé.
C'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est un peu tôt. Le travail qu'on a à faire est gigantesque, vous l'avez dit tout à l'heure, il est gigantesque. Pour l'instant, nous continuons, nous travaillons dans les établissements, j'allais dire au quotidien, et c'est ça la priorité.
Merci Laurent Guillot, nouveau directeur général d'Orpea, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. On rappelle donc votre annonce ce soir, cette campagne de recrutement qui va être lancée avec plus de 500 recrutements par mois d'ici la fin de l'année. Merci d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. Dans quelques secondes, RTL Soir continue de vous informer, de vous accompagner. Il y aura vos dessous de l'actu. La NASA va tenter ce soir de dévier un astéroïde. Alors on va tout vous expliquer. Et puis laissez-vous tenter dernière. Jules, le dessinateur de BD, écrit désormais des romans et on va l'ouvrir ce premier roman juste après la pause. À tout de suite.
Jusqu'à 19h15.
RTL Soir avec Julien Cellier. RTL, s'informer ensemble.
Bonne fin de journée, vous écoutez RTL, il est 18h30.
RTL Soir,
Julien Cellier, Marion Calais.
Et un rappel utile des trois titres de l'actu à retenir ce soir avec vous, Marion Calais.
Julien Bayou n'a jamais exercé la moindre violence psychologique à l'égard de ses compagnes. Les mots de l'avocate du député écolo qui a démissionné ce matin de son poste de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts après ses accusations de violence la semaine dernière. À Nantes, information judiciaire ouverte après le viol d'une femme de 40 ans ce week-end. L'incarcération des deux suspects de nationalité soudanaise en situation régulière a été requise. Il est réfugié en Russie depuis 2013. Edward Snowden se voit aujourd'hui accorder la nationalité russe par Vladimir Poutine, décret signé ce matin.
Merci Marion. Le temps demain, quelque peu morose.
Oui, exactement ça, j'ai sorti toute la panoplie. Donc il y aura des éclaircies, des nuages, des averses, de la pluie, de la neige en montagne et du vent. 70 km/h près de la Manche, jusqu'à 80-100 km/h près de la Méditerranée où il y aura quand même un peu plus d'éclaircies. Et puis les températures un peu fraîches pour la période, hein, de 16 à 19 degrés dans la plupart des régions et 21 à 24 quand même près de la Méditerranée.
Merci Louis.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Avec les dessous maintenant de cette opération Armageddon, vous vous souvenez du film ? Eh bien ce sera la réalité ce soir. La NASA va tenter de dévier la trajectoire d'un astéroïde. Bonsoir Karine Auten.
Bonsoir Julien.
Alors vous êtes à New York pour RTL, c'est une opération kamikaze en quelque sorte, c'est ça ?
Tout à fait. La NASA a décidé d'envoyer cette nuit à 1h14 heure de Paris très exactement, une de ses sondes s'écraser intentionnellement sur un gros caillou de 160 mètres de diamètre à la vitesse, tenez-vous bien, de 22 000 km/h. Le but, c'est que ce crash entraîne un changement de trajectoire de ce petit astéroïde baptisé Dimorphos.
Mais juste rassurez-nous, c'est un exercice. L'astéroïde, il n'est pas parti jusqu'ici pour s'écraser sur la Terre.
Non, Julien, je vous rassure. Si cela ressemble à un scénario catastrophe d'Hollywood pour cette nuit, on en reste à l'exercice. L'objectif est justement d'évaluer à quel point nous sommes capables de faire dévier des corps célestes qui pourraient un jour menacer la Terre. Parce que si de petits astéroïdes de 10 à 20 mètres de diamètre approchent de la Terre, eh bien, ils se consument ou explosent lors de leur trajectoire dans l'atmosphère. En revanche, des objets plus gros et métalliques pourraient avoir la force de 150 bombes d'Hiroshima en impactant notre planète, d'où l'importance de ce premier test au monde. Alors DART, la sonde, a été envoyée dans l'espace en novembre dernier déjà. Depuis, elle a pris des centaines de milliers de photos chaque jour pour permettre aux scientifiques de la NASA de calculer le point exact de l'impact, celui qui a le plus de chances de justement avoir un effet sur la trajectoire de l'astéroïde. Et surtout, la NASA l'assure, en aucun cas cet exercice ne déviera l'astéroïde sur une trajectoire où il pourrait menacer la Terre.
Impact prévu donc à 1h14, heure française. Merci beaucoup Karine Auten, les dessous de cette opération DART, fléchette en anglais, sur RTL. Merci Karine.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h33.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et on va lire maintenant dans Laissez-vous tenter, dernière, parce que notre Mister Littérature nous a rejoint en studio. C'est Bernard Lehu, bien entendu. Bonsoir Bernard.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Et dans la rentrée littéraire, dites donc, il y a un intrus. Il s'agit du dessinateur Jules qui publie 50 nuances de grec.
Oui, son premier livre sans images et à coup sûr le plus drôle, mais pas seulement, de cet automne. On connaît les versions bande dessinée et série animée de 50 nuances de grec. Eh bien, voici la version roman épopée et toujours le génie de Jules de transformer la mythologie grecque et les dieux de l'Olympe en miroir de notre époque. Tout y passe sous la plume de Jules, à commencer par le coronavirus venu bouleverser nos vies.
Moi, je l'ai transposé dans ce livre en forme de taramavirus qui met à l'arrêt toute la mythologie et ça permettait de se moquer de nos travers, de nos absurdités qui allons faire des stocks de PQ au supermarché alors que la planète s'arrête et puis en même temps des vraies choses de douleur parce que des gens disparaissent autour de nous, un monde qu'on a aimé est englouti. Et ben voilà, lire ces aventures justement mythologiques et grecques, il y a peut-être quelques réponses à trouver dans tout ça. La mythologie grecque, c'est le plaisir, mais c'est aussi une extraordinaire trousse à pharmacie.
Revisité également par l'érudit et facétieux Jules, eh bien, la grogne sociale.
Le mouvement des toisons jaunes, qui sont pas du tout contents justement et qui occupent les ronds-points à la sortie de Corinthe, qui réclament l'égalité entre les hommes et les dieux et que le fait que les dieux se gavent d'ambroisie sur leur Olympe sans faire attention à la hausse du prix de la moussaka, ben c'est pas possible. La lutte des classes, elle est enracinée finalement dans les relations sociales.
Le prix de la moussaka, et l'ambroisie. Oui. Tout l'humour du livre, en fait, c'est un festival d'anachronismes, Bernard, et de jeux de mots.
Mais oui, saviez-vous que les dieux grecs vont au Télémaque Donald ?
Ah oui, c'est la malbouffe, ça existait déjà à l'époque du tzatziki et des souflekis.
Sur l'Olympe et sur l'Olympe, on se passionne pour le ballon rond.
Et vous savez que l'équipe de football du Paros Saint-Germain se déplace uniquement en char à voile, à l'époque déjà.
Qui affronte le Vestal Madrid.
Voilà, bien sûr, parce que tout le championnat mythologique s'en donne à cœur joie.
Et la sexualité est omniprésente.
Bah, évidemment, contraignant Eros, dieu de l'amour, à s'adapter à la concurrence.
un angelot, les fesses à l'air, qui volait au-dessus d'Athènes en décochant ses flèches vers les amoureux. Ça fait plus du tout recette. Donc, il décide de créer une application qui s'appelle adopteungrec.com. Et alors là, ça marche, mais on se rend compte qu'il y a des gens qui trichent avec leur profil. Parce que les serial séducteurs comme Zeus, il a plein de profils différents, mais on se rend compte que c'est lui, en fait. Et donc là, c'est effectivement les dérives qu'on peut avoir sur les sites de drague qui ressemblent plus à des espèces de marathons du sexe.
Et évidemment, ces applis, on les a sur son...
Ah oui, le smartphone, tout le monde a ça. Ça fonctionne pas mal.
50 nuances de... Le grec nous fait rire, on l'entend dans ce studio, mais réfléchir aussi sur notre époque, de bonnes raisons pour vous laisser tenter par le livre de Jules, publié au Seuil.
On se laisse tenter, ah oui, merci totalement. Beaucoup pour la découverte Bernard Lehu ouais. Ce soir. La suite dans RTL Soir, c'est bien entendu On défait le monde avec les 20 minutes oui. D'infos autrement de nos amis Sini Choquet et Tessier. Bonsoir les amis.
Bonsoir.
Alors, Paros Saint-Germain, affaire Pogba et Diallo, Qatar, le foot vous dégoûte? Eh bien, on a trouvé encore plus dingue, encore plus fourbe, l'univers impitoyable des échecs. On vous explique tout juste après ça, tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.